Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute.
Je m'appelle donc Raphaël Renbuch, je suis journaliste et animatrice indépendante depuis peu, depuis juin 2022. Avant ça, j'étais journaliste salariée, on va en parler je pense, mais dans différents médias, notamment à TV7 qui est la chaîne de télé locale à Bordeaux où j'ai fait mes armes. Ça appartient au groupe Sud-Ouest, donc j'y ai passé 5 ans. À part ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis bordelaise depuis 7 ans. Je suis arrivée justement pour ce premier boulot à TV7. Avant ça, j'avais grandi à Paris, fait mes études entre Aix, Toulouse et New York. Et à part ça, je suis aussi maman d'une petite fille depuis un an et demi. Donc ça me prend pas mal de temps, c'est pour ça que je le dis.
Pour préparer cet entretien, j'ai observé attentivement ton parcours, notamment grâce à LinkedIn, merci à ce réseau, à ton site internet. Tu viens beaucoup de la presse écrite. Je crois que tu as des expériences chez Psychologie Magazine, pour le journal L'Étudiant, et c'est encore le cas, me semble-t-il. Tu as été ou tu es encore rédactrice en chef d'un site qui s'appelait
qui s'appelle
La Langue Française. Comment t'as fait la bascule entre la rédaction et la présentation, faire un métier de voix ?
Alors c'est intéressant parce que quand on est journaliste, il y a souvent une histoire de légitimité un peu, tu vois, genre est-ce que c'est aussi prestigieux de faire de la presse écrite que de faire de la télé ou de la radio ? Enfin moi je sais que pendant mes études j'avais beaucoup cette question parce que moi j'ai toujours voulu être journaliste, vraiment c'est un truc depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans je crois, je disais à mes parents que je voulais être journaliste. Et ce qui est marrant c'est que je voulais être journaliste parce que j'aimais écrire, j'écrivais beaucoup d'histoires, de journaux intimes, etc. quand j'étais enfant. Et à côté de ça, bah tu vois, j'étais vachement attirée par la télé. Je me rappelle que je regardais Claire Chazal et je disais « Ah, je veux faire ça plus tard ». Donc je pense qu'il y a toujours eu cette ambiguïté, cette ambivalence en moi. Et après, bah, comme j'aimais écrire, que j'écrivais beaucoup, je me suis naturellement lancée dans le journalisme écrit. Au départ, ça me paraissait être le plus logique, le plus facile aussi. Tu vois, pendant mes études, j'étais correspondante pour La Provence parce que j'étais à Aix. Après, effectivement, je suis allée à Psychologie Magazine faire mon premier stage, puis L'Étudiant. En fait, au début, je voyais pas vraiment ce que je pouvais faire en télé ou en radio. J'avais pas du tout ce côté éloquence qui me titillait, puisque j'étais pas, on en reparlera d'ailleurs, mais j'étais pas du tout à l'aise à l'oral en fait pendant mes études. J'étais bien derrière mon stylo et mon journal, quoi.
Et comment on passe de cette jeune femme à la présentatrice sur TV7, qui a animé la matinale pendant 2 ans?
J'ai animé le JT du soir au début pendant 4 ans, et matinale, ça a duré un an seulement.
D'accord.
Je suis partie après, mais ouais, ça a duré un petit moment quand même. Comment on passe? C'est une bonne question, franchement. En fait, j'ai fait donc Sciences Po Aix comme école après le bac, donc un parcours très généraliste en me disant que je voulais être journaliste et que c'était bien d'acquérir une bonne culture générale et de m'ouvrir des portes. Et donc c'est là que je me disais bon bah écrire c'est cool, je vais devenir journaliste papier. Et puis en fait à la fin de Sciences Po, on a eu la possibilité de faire une formation complémentaire à l'école de journalisme de Toulouse en télé et radio, donc ils nous proposaient ça et je me suis dit bah en fait pourquoi pas. J'avais tellement peur de pas avoir de boulot parce qu'on nous disait la presse écrite, c'était vraiment internet qui explosait et tout il y a une douzaine d'années, donc on nous disait presse écrite vous allez pas avoir de boulot, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de me diversifier un peu en ayant quand même des bases en télé et radio. Et en fait j'ai fait cette formation, donc c'était 3 mois intensifs à l'école de journalisme de Toulouse qui nous permettait d'avoir le double diplôme. Et là j'ai notamment rencontré un prof On avait un prof qui nous faisait faire des duplex, donc face caméra, et qui m'a dit, mais en fait, toi, t'es pas faite pour être derrière, t'es faite pour être devant la caméra. Et moi, j'étais là, ah bon. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cet exercice. Et donc, on a eu, c'était donc, je te dis, en intensif, on faisait une semaine de présentation de JT, une semaine de duplex, une semaine de reportage. Et effectivement, quand c'était des reportages, porter la caméra, le côté technique et tout, ça me plaisait moyen. Mais c'est vrai que j'ai toujours, j'ai tout de suite accroché avec cet exercice d'être devant la caméra. Donc, c'est là que je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et en fait, bah, après cette expérience, j'ai fait un stage en télé à LCI où j'étais effectivement évidemment pas devant la caméra mais je préparais les fiches des présentateurs, etc.
D'Arlette et... Chabot notamment.
Ouais, D'Arlette Chabot, exact, t'as bien bossé, hein. Tu connais tout. Et après ça, quand j'ai cherché mon premier job, je me suis dit, bah, en fait, ce même prof qui est d'ailleurs journaliste à France 3 à Marseille, donc très féru de local, tu vois, il m'a dit, si tu veux, il faut que tu sois devant la caméra, et si tu veux commencer, ça sera pas à Paris. Cherche une petite chaîne locale ou faire tes armes, tu vois, et c'est ce que j'ai fait. En fait, moi j'étais à Paris en stage, et d'ailleurs je déprimais un peu parce que je trouvais que la vie à Paris était vraiment, c'était plus du tout mon truc après avoir fait 5 ans, tu vois, en province.
Une de plus qui se sentait mal à Paris.
C'est clair, et pourtant je suis une vraie parisienne, tu vois, mais ouais, j'ai fui. Et du coup, j'ai postulé un peu par hasard, j'ai passé un week-end à Bordeaux, j'ai trouvé ça cool, j'ai cherché chaîne de télé locale Bordeaux sur internet, donc tu vois, vraiment gros coup de chance parce que je leur ai envoyé un mail complètement au cul en disant salut, voilà mon CV, j'aimerais bien être présentatrice, j'avais jamais rien fait, je sortais de mes études. Et en fait, il m'a appelé, le rédacteur en chef de l'époque m'a appelé 3 jours après en me disant, bah écoute, c'était en août, hein. On cherche quelqu'un pour la rentrée pour septembre parce que la présentatrice nous a planté, viens passer un casting. Donc j'ai passé un casting, je tremblais de tout mon corps, genre j'étais absolument pas à l'aise, et je pense que ça c'est une vidéo à retrouver pour les enfants de la télé, mais clairement j'étais en sueur, en plus c'était genre fin août, il faisait 40 degrés dans le studio, et je me suis dit mais je vais jamais, et en fait je me rappelle, c'est marrant parce que quand tu m'as contacté pour cet exercice de podcast sur la prise de parole, je me suis rappelé qu'à ce moment-là je me disais jamais je n'arriverai à être à l'aise, tu vois, devant une caméra en plateau. Et en fait, je pense qu'en le faisant, c'est vraiment en faisant que j'ai appris, et je me suis servi aussi, j'ai fait du théâtre, je t'ai pas dit ça, mais j'ai fait du théâtre quand j'étais petite, je voulais déjà, je pense que j'avais déjà cet attrait pour le côté être sur le devant de la scène. Et en fait, bon, petit à petit, j'ai été de plus en plus à l'aise et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, tu vois, mais on va peut-être en reparler, c'est un cheminement quand même, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi.
Et oui, j'insiste, qu'est-ce qu'on vous apprenait pendant ces 3 mois-là? Qu'est-ce que tu as appris en session intensive de formation face caméra?
Ouais,
tu te souviens d'outils, d'astuces, de...
Je me souviens, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait, enfin tu vois, quand j'y repense, j'ai pas l'impression qu'il y avait un truc très concret. Alors je me souviens, nous ce qu'on apprenait, c'était vraiment sur le côté journalistique, tu vois, de si t'es en direct et que tu sais pas que t'as un bug, que par exemple t'as une priorité au direct, eh ben on nous a appris surtout comment meubler, tu vois, réussir à... Alors je te donne l'exemple de, je sais pas, moi je donne souvent cet exemple, quand Alain Juppé a démissionné, j'étais en direct sur TV7 et c'était un énorme événement, et c'est marrant parce que je faisais tout le temps cette blague pendant 4 ans en disant, oh, imagine Alain Juppé il meurt quand je suis en direct, donc il est pas mort mais il a démissionné quand j'étais en direct, ce qui était pas mal quand même, démissionner de la mairie de Bordeaux, on s'y attendait pas du tout. Donc tu vois, l'astuce qu'on nous a donnée, j'y ai beaucoup repensé à ce moment là c'est commenter des images et dire tout ce que tu sais qui peut servir à introduire ce qu'on va t'amener en direct. Mais tu vois, là j'avais des gens qui arrivaient sur le terrain, et pendant ce temps là je me rappelle que je voyais les images de la caméra, et j'étais là, voilà, alors nous sommes donc devant la mairie, Alain Juppé qui a été maire de Bordeaux depuis 43 ans, hein. Alain Juppé, on se rappelle, Premier ministre, donc en fait c'est vraiment là où je me suis dit, c'est bien que t'aies fait Sciences Po, parce que tu vois, t'as quand même besoin de ta culture générale, ta culture politique et tout dans ces moments-là, qui te permet de meubler, tu vois, sur la place que Alain Juppé a eue comme Premier ministre, le rôle du maire de Bordeaux, enfin, etc. Bref, tu vois. Donc, on nous a appris beaucoup à meubler. Après, on nous a appris, bien sûr, des techniques de diction bien articulées, des trucs très basiques. Hein. J'ai pas le souvenir vraiment de tips révolutionnaires dans le journalisme, mais bien poser sa voix, ça, on en reparlera peut-être, mais on le sait tous, hein, on a l'impression que les présentateurs parlent tous pareil. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs, mais on nous a... En fait, c'est marrant parce que quand on n'avait pas cette façon de parler, et personne ne l'a en fait au départ, tu vois, de poser sa voix, que ce soit sur les reportages ou en plateau, on nous disait que c'était pas le bon ton, tu vois, et très vite, t'avais l'impression de pas avoir la bonne intonation, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu parles, en fait, je m'en suis rendu compte en le faisant, tu peux pas dire « bonjour à tous ». il est 18h et nous sommes en direct sur TV7. En fait, ça ne marche pas. Tu es obligé d'avoir un ton entraînant. Et du coup...
Et comment tu le ferais, ça, à la sauce TV7, alors, par
comment
exemple?
Je le ferais bonjour à tous et bienvenue. Il est 18h, nous sommes en direct sur TV7. Tout de suite, l'actualité du jour. On va regarder les titres de ce journal, tu vois. Et je ne saurais même pas te dire...
C'est une voix plus ronde. Ouais. Et tu accentues aussi certaines consonnes, les titres.
Ouais. Je pense que tu poses effectivement une accentuation sur des syllabes qui, c'est pas du tout naturel quand tu parles à quelqu'un, quoi. Mais
et pour nos auditeurs qui ont envie d'apprendre à poser leur voix au téléphone, par exemple, ouais. Ou pour un podcast, tiens, comment je dois faire, moi, là?
Bah, moi, je dirais vraiment d'essayer d'accentuer, tu vois, là, c'est ce que j'essaye de faire pour essayer d'être audible, d'accentuer des syllabes précises, enfin, pour essayer de donner un peu de volume, enfin, tu vois, d'épaisseur à ce que tu dis. En fait, je pense que tout est une question d'assurance, tu vois.
Et d'énergie aussi dans la voix.
Ouais,
c'est-à-dire l'investissement que tu vas y mettre dans la voix. On entend effectivement cet arrondi, cette accentuation de consonne. Pour en revenir à ce que tu disais sur cette anecdote avec Monsieur Alain Juppé, ça me fait penser aux techniques en direct des journalistes de BFM dont tu as fait partie, je crois, un été. Tu as fait quelques passages où régulièrement ils doivent improviser sur le direct. C'était la question que j'allais te demander. T'es pas que journaliste et animatrice TV, tu es également animatrice de conférences, ce qu'on pourrait appeler maîtresse de cérémonie. Quelle est la part d'improvisation dans tes différentes activités? Comment tu t'y prépares?
Écoute, je t'avoue que, alors, au départ, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très très peur, l'impro. En plus, je suis quelqu'un de très carré, stressé. J'ai besoin que tout soit, tu vois, dans la vie de tous les jours, par exemple, je suis un peu psychorigide, j'ai besoin que tout soit organisé et tout, enfin bref. Donc du coup, l'idée qu'il puisse y avoir de l'improvisation dans mon métier, ça me stressait énormément. Et quand je suis arrivée à TV7, je me rappelle qu'il y a eu mon prof de France 3 à Marseille, mais il y a eu aussi le rédac-chef de TV7, Bastien, qui a été un peu un mentor pour moi, enfin qui m'a vraiment aidée à progresser dans cet exercice. Et lui, son conseil, c'était arrête de tout écrire, tu vois. Moi, j'écrivais tout mon JT, j'écrivais le bonjour, bienvenue à tous, il est 18h. Il me disait, mais t'as pas besoin de l'écrire, tu vois. Et en fait, moi, vraiment, je pense que ça a dû durer bien un an ou deux où je lui disais non, je ne peux pas aller à l'antenne sans avoir écrit, je veux tout écrire, ça me stresse trop. Et donc, je pense que lui, il savait que ça allait finir par passer. Et je pense qu'un jour, enfin, je suis sûre même, il y a eu un jour où il y a eu un truc à improviser en direct. Même, je me rappelle, quand on avait des infos, j'avais une oreillette, donc les gars en régie me disaient dans l'oreillette, ah, il faut que tu donnes les chiffres du chômage. J'étais là, attends, donne-les-moi. Donc, les chiffres du chômage, j'écrivais genre toute la phrase que j'allais dire. Et en fait, un jour, on m'a donné des trucs que j'ai pas eu le temps d'écrire. Je me suis juste écrit trois infos, trois chiffres. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, le truc de la prise de parole et de la confiance, c'est que je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas morte. Enfin, ça va, tu vois. Genre, j'ai réussi à m'en sortir. Et peut-être même que ça fait encore plus naturel, enfin, que c'est, tu vois, c'est plus agréable à écouter qu'un truc tout écrit et tout. Et donc je m'en rappelle qu'à BFM, justement, c'était l'été 2018, donc juste après, ça me faisait super peur de voir des trucs en direct, parce que j'ai présenté donc tout un été, j'étais en gros joker, tu vois, je remplaçais les titulaires pendant tout un été. J'étais hyper stressée de mes premiers plateaux parce que je me disais, c'est pas le même nombre de personnes que TV7, tu vois, qui te regardent. Et en fait, pareil, tu vois, c'était effectivement, on recevait des images, ah bah tiens, il y a tel ministre qui arrive en direct, et on était deux en plateau, donc il y avait l'autre qui avait un peu plus d'expérience que moi qui m'épaulait si besoin. Mais en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais le faire et que de pas tout écrire, c'était pas mal. Et bah tu vois, dans les conférences aujourd'hui, pareil, je m'écris les questions principales pour relancer. Et en fait, je pense que j'ai une personnalité aussi, tu vois, où j'aime bien faire des petites blagues, je suis pas très premier degré comme nana. Et donc du coup, petit à petit, je me suis rendu compte que je mettais de plus en plus de moi et d'impro dans mes conférences, dans mes animations. Et s'il y a un bug, je vais pas paniquer, je vais au contraire dire bon bah voilà, ça arrive en direct, machin. Et les gens aiment bien, en fait. Et tu te rends compte que les gens apprécient le côté, ils se disent ah, en fait, les gens ont tellement peur de parler en public que quand toi, t'arrives à le faire de manière détendue, même s'il y a un bug, je pense que les gens apprécient vraiment, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte.
Ouais, c'est très juste. Et il y a plusieurs écoles en matière de préparation. Moi, ce que je constate souvent dans les écoles où j'interviens ou avec mes clients, c'est qu'il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui vont préparer en écrivant absolument tout. Et ça a été mon erreur pendant très longtemps. Le problème de ça, c'est que t'as pas le même ton aussi. T'as pas la même énergie dans la voix. Et surtout, tu vas employer des termes qui, à un moment donné, sont trop lourds. Ouais. Je pense aux adverbes, par exemple. Souvent, c'est des mots à 3 syllabes, voire un peu plus. Ou en tout cas, qui sont un peu lourdeaux pour l'oral. Et donc, ça finit par aseptiser en fait ta personnalité, elle l'a séchée, ça sonne plus pour l'oral. Donc ce que je recommande souvent, c'est de travailler au dictaphone par exemple. Mes élèves ou mes clients, je leur partage souvent cet outil-là et ça va dans le sens de ce que tu décris, c'est apprendre en fait à apprivoiser l'oral par l'oral.
Ouais, et j'ai un super tips, tu vois, franchement, je pensais que j'en avais pas des tips, mais en fait, en parlant, je me rends compte que oui, en école de journalisme, tu vois, tu me demandais tout à l'heure, et ben ça, c'est un truc qu'on a appris qui m'a ultra servi à TV7, c'est on a appris à écrire parler, en fait. Et tu vois, à ne pas écrire comme si t'écrivais pour un article de la presse écrite, et tu n'écris pas du tout de la même manière. Et moi, je le vois là, tu vois, je suis encore correspondante, enfin, j'écris pour des médias papier, j'écris pas du tout pareil que quand j'écris pour un JT, une émission télé et tout. Et en fait, moi, ce que je fais, quand j'écrivais mes JT, par exemple, je le fais à voix haute. Et d'ailleurs, c'est très chiant pour les gens dans la rédaction avec moi, qui avaient envie de me tuer à chaque fois. Mais tu vois, j'écris, et le fait de le dire en même temps, j'écris mes petites transitions, mes trucs, même je le fais pour des conférences maintenant, mais j'arrive à le faire sans parler parce que j'ai acquis l'automatisme. Mais vraiment, écrire comme si tu parlais, tu vois, et complètement couper les... Enfin, enlever les « en effet »,« effectivement », machin, ce que tu disais, les adverbes et les trucs. Et en fait, petit à petit, t'arrives à, même si c'est pas de l'impro... Je pense que tu peux t'écrire quelques trucs si vraiment t'es stressé, mais il faut que ce soit vraiment écrit comme si c'était parlé, enfin dit à l'oral, quoi.
Ouais, c'est intéressant, c'est un outil qui est complémentaire un peu de celui que je peux donner. Et effectivement, c'est d'écrire parler. Mmh. Alors sans tomber effectivement dans le tout parler, on parle pas là de tomber dans le familier, mais de passer par l'oral, hein, finalement. Ouais. Là encore une fois. Est-ce qu'il y a un exercice de prise de parole que tu continues de redouter malgré ce métier de voix que tu fais, ce métier de présentation où tu as été sous le feu des projecteurs pendant plusieurs années?
Franchement non, là donc récemment je fais beaucoup, depuis que je suis devenue indépendante, donc j'ai toujours tu vois des petites animations, enfin des petites présentations, parfois je fais des remplacements sur TV7, des émissions, des trucs comme ça, j'avoue que ça me stresse plus. Et ce que je disais, c'est que la plus grosse partie de mon activité maintenant, c'est quand même des conférences, des animations de conférences. Honnêtement, je redoute plus du tout, enfin j'ai plus du tout ce stress d'avoir les mains moites et tout comme j'ai pu avoir, je pense que c'est vraiment, et je me le dis à chaque fois, je me dis c'est dingue, t'es pas stressée quoi, je sais que j'ai mes copines qui me disent « Ah ouais, devant 500 personnes, tu vas animer un truc ?» Et en fait je pense que j'ai vraiment intégré ce truc que, de toute façon c'est pas moi l'experte, moi je vais poser des questions aux gens, parce que moi c'est ce qui me faisait peur d'arriver sur scène ou en plateau, c'était je me disais oh, « Mais je sais rien moi, qu'est-ce que je vais leur dire ?» Mais en fait j'ai rien à savoir, tu vois, j'ai juste à faire ça, tu vois, être à l'aise, sourire, passer la parole, rebondir, écouter, en fait moi mon travail c'est d'écouter, c'est pas de parler de moi. Donc ça, une fois que tu l'as intégré, je trouve que c'est rassurant et que tu peux animer un truc sur n'importe quel sujet, t'es toujours dans la même posture, en fait. Donc voilà, ça c'est très spécifique au métier de journaliste. Après, non, je pense que si, je sais pas, en fait, à chaque fois que je fais un truc nouveau, je ressens ce petit stress, tu vois, si là tu me dis, ah bah, tu vas présenter une émission sur une chaîne de télé nationale, voilà, un truc que j'ai jamais fait, je vais re-stresser, forcément.
Mais... Oui, je crois même que ça fait partie du jeu, en fait. Il y a Isabelle Adjani qui dit souvent, si j'ai pas de stress avant de monter sur scène, il faut que je change de métier. J'ai aussi une anecdote sur Jean-Paul Belmondo. Au moment où il arrête, où il met en tout cas entre parenthèses son métier d'acteur pour retourner au théâtre, je crois qu'il joue à ce moment-là Cyrano de Bergerac. La légende raconte qu'à Paris, il fait demi-tour devant le théâtre avec sa voiture de sport et il se met à emprunter les avenues parisiennes de nuit à plus de 100 km/h pour se décharger d'une adrénaline. Donc finalement, le stress, on l'a toujours un petit peu, mais c'est la manière dont on va le gérer, je crois, qui est importante.
Ouais,
en tout cas, moi, je crois beaucoup à la technique pour le gérer. Alors, dit comme ça, souvent, l'objection, ça peut être oui, mais on est plus naturel. Ou, au contraire, je crois qu'une journaliste, un sportif, une artiste, on entend, on sent son naturel quand il y a de la technique. Ça émerge sur de la technique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas 36 scories éthiques de langage dans ton lancement que je peux apprécier ton timbre de voix, ton énergie, ta façon d'être. Sinon, ce serait un peu problématique. Il y a une spécificité dans ton quotidien, c'est que tu es souvent appelé pour animer des événements, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et j'imagine pas que. On peut citer le CHU de Bordeaux, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la région Nouvelle-Aquitaine. Comment tu fais pour préparer ces événements que tu dois animer, qui peuvent porter parfois sur des sujets pointus? Comment tu t'y prépares? Parce que même si t'es une passeuse de parole, Malgré tout, parfois, il faut reprendre un peu le lead. Comment tu te prépares ?
Ce que je te disais, c'est que je me suis convaincue, et c'est vrai que je n'ai pas besoin d'être experte du sujet de la conférence, de l'événement que j'anime. Mais par contre, effectivement, je ne peux pas y aller sans avoir en tête les enjeux et tout ce que ça implique. C'est très simple. Moi, à chaque fois que j'ai un événement animé avec des gens qui prennent la parole, donc c'est souvent des tables rondes, j'appelle chacun des intervenants, les uns après les autres. Je prends le temps, et c'est pour ça que tu vois, quand on fait un devis d'animation, moi, la partie préparation est beaucoup plus importante que la partie animation, puisque en général, c'est ça qui me prend du temps. Tu vois, souvent pour une animation d'une journée, j'ai 2 jours de prépa parce qu'il faut que j'appelle tous les intervenants, que je m'écrive des trucs, que je fasse des recherches un peu sur le sujet. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas, un gros truc que j'ai animé là récemment, effectivement, au CHU de Bordeaux, c'était les rendez-vous de l'innovation paramédicale. J'y connais rien, tu vois. Et honnêtement, plus ça va et plus je me détends là-dessus aussi, j'appelle les intervenants en disant « Bonjour, voilà, je suis journaliste, j'anime cet événement, mais je suis journaliste généraliste, je ne suis pas spécialisée dans le sujet, est-ce que vous pouvez m'en parler comme si j'étais votre grand-mère, quoi ?» Et du coup, les gens, en plus, ça les fait marrer. Je leur dis pas toujours ça comme ça, mais tu vois, j'essaye vraiment de leur dire « J'y connais rien, vous êtes l'expert, parlez-en moi, comme ça, moi, je comprends bien le sujet et après, je pourrais vous poser les bonnes questions le jour J. » Et en général, ça suffit, honnêtement. Les gens sont souvent assez contents, en fait, des questions. Et je pense que c'est aussi les mécanismes de journaliste, parce que quand je présentais les JT sur Télé7, là, pendant 5 ans, j'avais la partie JT, mais j'avais aussi un invité tous les soirs et tous les matins. Donc, tu vois, j'ai quand même appris à poser des questions sur tout et n'importe quoi. Et au début, j'étais nulle, hein, je posais pas les bonnes questions. Enfin, je pense que il y a pas de mauvaises questions, mais tu vois, je veux dire, c'était pas hyper pertinent. Et petit à petit, tu vois, je pense que c'est une, j'ai pas trop de technique pour ça, c'est juste c'est de la pratique et une vision journalistique que tu acquiers peu à peu, quoi.
Oui, j'ai le sentiment aussi qu'être maîtresse de cérémonie, ça implique d'anticiper un certain nombre de bugs, de couacs. En termes de peut-être qu'il n'y ait pas de trou dans l'animation, qu'il n'y ait pas de grand blanc où tout d'un coup il n'y a pas de relance autour de la table.
Ah oui, c'est clair.
Voilà, il faut pas que ça retombe, il faut pas que l'énergie retombe.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc j'imagine que cette préparation-là, c'est capital hein, dans ce métier.
Ouais. Ouais, c'est de la préparation qui est capitale. Et je te dis, il y a une grande part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une grande part d'impro quand même, parce qu'effectivement, tu sais jamais comment ça va se passer, s'il va y avoir un bug, ça arrive tellement tout le temps, la vidéo qui doit lancer, le gars, elle marche pas, trop marche plus. Et voilà, et en fait, je pense que ça, c'est une grande partie d'impro. Et je te dis, moi, j'ai compris qu'en étant sympa, souriante et en faisant des petites blagues, quand il y a des bugs et des blancs, ça passe vraiment 1000 fois mieux. Et après, pour pas avoir de blanc, effectivement, enfin, tu vois, je te dis, moi, l'adrénaline du direct, ça a été la meilleure école pour moi, tu vois, de faire pendant 5 ans et après sur BFM aussi pendant 2 mois ces présentations de JT en direct. En fait, plus rien ne te fait peur après, tu vois. Quand t'es en direct devant une caméra seule en plateau et que tu sais que tout peut t'arriver, et que ça m'est arrivé bien sûr 10 fois, hein, un sujet qui plante au milieu et tu te retrouves à l'antenne, t'es là en fait tu dois improviser. Et je te dis, tu te rends compte qu'en fait t'es pas mort, quoi. T'as eu un bug, les gens ont au mieux rigolé, enfin au pire rigolé, au mieux juste dit oh la pauvre, et c'est pas grave. Et donc tu vois, quand je suis en conférence comme ça, je me dis ça aussi. Et en plus, en conférence, pas pareil que quand t'es devant une caméra, tu vois les gens, tu peux leur faire un petit sourire, accrocher leur regard, rebondir même. Ah, madame, j'ai vu que vous rigoliez, machin, vous avez quelque chose à dire. Enfin, voilà. Bref, je pense que c'est vraiment pas de l'impro, mais ouais, de l'impro, mais de l'impro dans le bon sens de, tu vois, savoir réagir aux imprévus, quoi.
Pour avoir déjà animé des événements, alors liés à la culture notamment, ce que j'utilise, et là c'est un petit peu ce que j'entends, c'est cet humour d'observation. Tu vas rebondir sur ce qui se passe dans la pièce, sur une éventuelle réaction. C'est ce que font d'ailleurs souvent les humoristes pour improviser. Qu'est-ce qui se passe au premier rang?
D'ailleurs, je pense que je suis prête à faire mon premier stand-up là.
Ça y est, t'es en train de le préparer.
One woman show, ouais, je le prépare.
Les fous rires de Bordeaux, c'est pour toi l'an prochain.
Ouais, tu me disais quoi, pardon?
Non, mais d'ailleurs, il y a plein de points communs avec les humoristes. Alors, j'ai pas étudié leur biographie particulièrement, mais depuis tout à l'heure, on parle de préparation par l'oral. Je pense à ça. Les humoristes, c'est ce qu'ils font aussi. Ils travaillent beaucoup avec leur dictaphone. Ils prennent des notes sur le téléphone en permanence. Et donc, on parlait aussi de cet humour d'observation qui est capital si on veut apprendre à improviser en public, en fait. Mmh. Aussi bien en réunion ou en... Souvent, on me pose la question de l'humour. Mmh. Est-ce que je dois faire de l'humour? Et ma réponse, c'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il vaut mieux éviter l'humour si...
C'était pas drôle.
Si c'est pas drôle. Comment se prémunir de ça? À mon avis, la meilleure forme d'humour en prise de parole pour des gens qui animent des réunions, je pense au quotidien de salariés, de managers, c'est l'autodérision.
Mmh, oui, c'est ça.
C'est ce que, et d'ailleurs, ça marche aussi. Moi, il y a un animateur que j'aime bien, on va y venir sur ceux qui t'ont un peu inspiré. Alors, au départ, j'aimais pas forcément beaucoup parce qu'il venait un peu de la bande à Cyril Hanouna et je trouvais que c'était un peu un clone de Cyril Hanouna, mais c'est Camille Combal. Comment là, il a rebondi sur TF1 et comment on sent que dans sa conduite d'émission, il y a une part dédiée à l'improvisation et à un peu de lâcher prise. Quels sont les animateurs ou animatrices que t'aimes bien écouter, regarder ?
J'ai plus de journalistes en modèle que d'animateurs, animatrices. Mmh. Après, moi, je suis une grande fan. Enfin, en animation, je pense en télé parce que du coup, on parle de ça là. Mais je suis une grande fan de Quotidien et de Yann Barthès. Alors, je sais que ça divise beaucoup. Hein, c'est comme tu parlais, touche pas à mon poste. Mais enfin, c'est pas le même niveau, je trouve. Mais enfin, c'est pas du tout le même genre. Mais
ni le même public.
J'adore. Oui, voilà. J'adore Yann Barthès. J'aime bien son intelligence dans sa façon d'animer ses émissions. Je le trouve pertinent, drôle, après un peu piquant, et c'est ce qui peut diviser. Enfin, très piquant parfois même. Mais voilà, et sinon, en journaliste, comme modèle, j'ai pas beaucoup de modèles, hein. J'avoue que je me dis rarement ça, mais celle que j'admire beaucoup, c'est Léa Salamé, que je trouve vraiment, vraiment bien comme journaliste. Enfin, disons qu'elle a fait déjà, elle fait tellement de choses. Je comprends pas comment elle peut faire autant de choses dans une journée. Ça m'impressionne beaucoup.
J'ai l'impression que c'est le dénominateur commun d'ailleurs de ces deux personnes que tu cites. Ouais. J'ai rencontré Yann Barthès il y a pas très longtemps. Physiquement, en fait, enfin, on sent que sous les couches de maquillage, il y a beaucoup de fatigue, ouais. Beaucoup d'investissement, ce qui ne se voit pas à la télévision. Mais c'est ouais. Et puis quand on, alors, il filtre beaucoup, il laisse passer peu de choses sur sa vie privée ou sur son quotidien, c'est le cas de le dire.
Ouais, mais je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est son
gros travailleur,
pro, tu vois, et ouais. c'est un gros travailleur
et puis producteur.
Gros travailleur. Mais c'est ça que j'admire beaucoup. Je pense c'est ce travail qu'il faut pour. Et en fait, c'est marrant que tu me dises ça parce que tu vois, moi, j'ai vraiment fait un choix, ça a été un vrai choix de vivre à Bordeaux et de mettre un peu ce côté carriériste de côté, parce que en vrai tu peux pas être une journaliste successful en étant à Bordeaux, enfin tu vois, je veux dire, on le sait, tous les médias sont à Paris. Je suis passée par la case BFM et je me suis dit en fait mon mec est à Bordeaux, j'aime la qualité de vie qu'on a ici et tant pis, tu vois, j'avais 27 ans, je me suis dit bah tant pis, écoute, je ferai ma petite carrière à Bordeaux et qui est très bien en fait, tu vois, je suis très contente. Et honnêtement, je sais ce que je te disais, j'ai une fille qui a un an et demi là, je me verrais pas aller à Salamé qui a accouché et qui 3 jours après était à l'antenne. Enfin, c'est
3 jours après.
Ouais, je crois.
Et qui vient là de terminer une saison Quelle époque, ouais. Où il y a Christophe de Chavannes aussi qui est chroniqueur dans l'émission. Et c'était un peu sur le papier, ça pouvait paraître casse-gueule et apparemment c'est un succès. Hein. Ouais, elle a repris cette case là avec brio.
Tout ce qu'elle fait, c'est quand même avec brio, je trouve. Elle est très forte. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est vraiment un choix de vie et je pense que dans ces métier dans le journalisme particulièrement, bah en plus c'est horrible, mais quand t'es une femme d'autant plus, t'as vraiment des choix à faire, quoi. Est-ce que tu choisis de te consacrer à 100%? Et moi je l'ai vu en étant à Paris et c'est pour ça que j'en suis vite repartie, que je suis revenue à Bordeaux. C'est si tu veux, parce que tu sais, c'est le milieu de la pige où tu commences pigiste, donc c'est hyper précaire, et si tu veux réussir faut être dispo H24 le week-end tout le temps, et moi ça me enfin tu vois, je suis vraiment dans cette réflexion et je pense que tu peux l'avoir dans les deux sens. C'est que je me dis, on a qu'une seule, enfin la vie est courte, donc tu peux te dire bah la vie est courte, justement j'ai envie de réussir ma carrière au maximum. Et moi je me dis, la vie est courte, j'ai envie de profiter aussi d'autres choses que du boulot, quoi, de pas faire que bosser tout le temps, et voilà. Et peut-être que si j'étais restée, tu vois, en 2018 après cet été à BFM, tout le monde m'a dit ah bah du coup maintenant tu vas avoir un contrat à BFM, ça y est, c'est toi qui vas présenter, peut-être que tu vois j'aurais pu gravir les échelons petit à petit et que j'aurais une tranche quotidienne maintenant, j'en sais rien en vrai, mais voilà, j'admire les gens qui sont bosseurs, mais je le suis pas assez pour être à Paris, quoi.
Ou tu l'as été beaucoup, en tout cas. Je crois qu'on sort pas de Sciences Po et l'école de journalisme sans avoir un peu bossé, mais en tout cas, volonté de trouver des équilibres.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je comprends clairement. Et forcément, il y a une question là qui me tente parce qu'il y a quelques parallèles entre nos activités. Gros pari de venir il y a 7 ans à Bordeaux. Tu fais un métier qui est, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, j'aime pas trop le terme, mais métier de niche un peu, où il peut y avoir une forme de précarité. Ouais. Comment tu te prémunis de ça? Comment tu tisses ton réseau pour trouver des événements à animer, pour...
Franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que le fait d'être à TV7 pendant 5 ans, si tu veux, ce que je te disais, tous les jours, j'avais quelqu'un sur mon plateau de je sais pas, la chambre de commerce, la mairie de Bordeaux, la métropole, des boîtes, le CHU, machin. Et honnêtement, bah, tous les jours, je discutais avec eux. Et sans être, à la base, je ne suis pas du tout, et la plupart des journalistes diront ça, c'est qu'on ne sait pas se vendre, quoi. Ce n'est pas du tout le même métier. Voilà, j'aimais pas du tout ça, faire du réseau et tout, c'était pas du tout mon truc. Et même, je me rappelle d'un truc, c'est que quand ils venaient en plateau, tu vois, souvent ils étaient dans la loge maquillage avant, et ça énervait mon rédac chef parce que je disais non, mais j'ai pas envie de leur parler avant, moi je fais juste l'interview en plateau, tu vois. J'avais pas du tout envie de ces small talk de ah, et vous faites quoi, machin.
Il fait beau aujourd'hui.
Non, et puis, ça fait longtemps. Alors qu'en fait, c'est comme ça que tu fais du réseau, et je m'en suis rendu compte après que j'étais bête, tu vois, mais en fait, ça s'est fait petit à petit, j'ai eu plus de plaisir à leur parler, et surtout, je me suis dit, attends, t'as une chance de fou, tu rencontres chaque jour une personne de Bordeaux qui est un peu influente en général, et donc du coup, bah, j'ai pris pas mal de numéros, et surtout aujourd'hui il y a LinkedIn, c'est quand même pas mal, tu vois, les gens suivent ce que tu fais et tout, et donc
c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Bah ouais,
merci LinkedIn, franchement
c'est clair, c'est comme ça, honnêtement c'est comme ça, je pense que j'ai eu la plupart de mes premières animations, parce que donc du coup TV7, tu vois, toutes ces années, et un jour, bah, il y a un an et demi, j'ai eu envie de enfin voilà, j'ai eu un bébé, donc comme je présentais la matinale, c'était très compliqué dans l'idée pour moi de revenir à 4h du mat le matin avec un bébé, ça me paraissait impossible, donc je me suis dit vas-y, je me mets à mon compte, et j'avais très très peur, honnêtement je me disais je vais jamais avoir de boulot, et en fait LinkedIn, quoi, j'ai fait un message en disant voilà, maintenant je suis journaliste indépendante, si vous avez besoin. J'avais déjà eu des premières animations par TV7, tu vois, on m'avait contacté en me disant ah, bah, vous êtes présentatrice à TV7, est-ce que vous voudriez animer un événement, notamment avec le département de la Gironde, tu vois. Les premiers, ça a été les collectivités qui me connaissaient par TV7, ça m'a donné un peu une crédibilité TV7 en fait, et après là je te dis, en juin 2022, j'ai posté des trucs sur LinkedIn, je me suis fait un site, enfin, j'ai quand même été un peu proactif, tu vois. C'est pas je savais que les trucs allaient pas venir à moi et que c'est un métier très précaire. Et j'ai beaucoup de potes journalistes, même à Paris, tu vois, qui sont juste pigistes en fait, qui ont pas. Et en fait, bon, ça c'est encore un autre sujet. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire en fait.
Je t'en prie, on est là pour ça.
Mais c'est deux mondes tellement différents. Le journalisme où t'as, tu sais, tout un côté déontologie, où t'es pas censé te vendre en fait. T'es censé être objectif, impartial. Il y a pas d'histoire d'argent qui est censée rentrer là-dedans. Et l'animation. Et en fait, moi, clairement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre juste du journalisme. Enfin, j'ai un bébé, j'ai un appart à Bordeaux, et c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est trop précaire. Et donc, du coup, j'ai fait le choix, effectivement, d'avoir ces deux activités qui sont vraiment deux casquettes différentes, et je l'assume, tu vois. Quand je suis animatrice pour un événement, je sais pas, le Crédit Agricole ou je sais pas quoi, je suis plus journaliste, je suis animatrice en fait, tu vois. Je mets de côté ma carte de presse, il n'y a pas du tout d'impartialité, je prépare avant les questions avec les gens, et c'est pas grave en fait, juste mon expérience de journaliste me sert pour ma casquette d'animatrice. Et vice-versa, je pense. Et donc, du coup, ouais, ça a été, pardon, pour répondre à ta question initiale, ça a été beaucoup de réseaux grâce à TV7 et que j'ai entretenu sur les réseaux sociaux, en passant des coups de fil beaucoup. Tu vois, l'été dernier, j'étais en flip de ne pas avoir de clients à la rentrée. Et petit à petit, en faisant une animation, bah, ça en appelle une autre. Et franchement, ça marche. Pour l'instant, je touche du bois, mais ça marche plutôt bien. Enfin, le bouche-à-oreille marche plutôt bien. Après, voilà, c'est précaire quand même comme milieu, hein, on ne va pas se mentir.
Est-ce que t'as un projet en cours, quelque chose dont tu voudrais nous parler, ou une envie particulière pour fin 2023-2024 en termes de médium ou d'animation?
Franchement, c'est marrant parce que je sais plus qui m'a demandé il y a pas longtemps. Là, si tu pouvais faire le boulot de tes rêves, ce serait quoi? Et je lui disais, franchement, c'est ouf de dire ça, mais je crois que je suis vraiment dans le truc idéal pour moi. Je sais pas si c'est le boulot de mes rêves, tu vois, peut-être que je te dirais, bah, être Léa Salamé, mais dans une autre vie, mais en vrai, dans une vie réaliste comme je veux la mener aujourd'hui, avec de la flexibilité pour pouvoir passer du temps avec ma fille, pouvoir moduler mon emploi du temps comme je veux, faire des trucs variés, rencontrer plein de gens, écrire des articles, en même temps me servir de ce côté éloquence que j'aime bien. Franchement, je fais le truc idéal, quoi. Enfin, voilà, il faut juste que tous les mois soient à peu près équivalents en termes de revenus et de chiffre d'affaires, et je suis au top, quoi. C'est juste qu'effectivement il va y avoir forcément des mois un peu moins bien, mais donc là pour fin 2023-2024, mon souhait c'est juste de pérenniser ça, de développer, de réussir à piger pour des médias que j'aime bien, comme je commence à le faire de plus en plus, et voilà.
Oui, parce que tu continues en parallèle la rédaction.
Ouais.
Je suis tombé sur des articles en préparant l'interview, sur des articles dans L'Étudiant, sur l'étudiant.fr, je crois.
Mmh. Ouais, L'Étudiant, c'est le média pour lequel j'ai pigé, enfin, depuis quasiment toujours, quoi. Enfin, depuis que je suis sortie de mes études. Et donc, effectivement, de temps en temps, c'est assez irrégulier, mais tu vois, ils m'appellent, genre, ah, on a telle actu à Bordeaux, est-ce que tu pourrais aller nous faire un petit reportage? Moi, je leur propose des sujets, parfois, sur des écoles, des trucs sympas. J'ai Bordeaux Madame aussi, qui est un magazine locale là, qui a été relancée il n'y a pas longtemps, enfin un magazine féminin, où j'écris des articles, tu vois, beaucoup plus légers, lifestyle, mode, etc. C'est cool. Là, j'ai commencé à piger pour un média digital où je filme. Enfin, c'est des reportages pour les réseaux sociaux, pour Instagram, qui s'appelle Lou Media, qui est top. Franchement, j'essaye de diversifier et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à vivre de la pige, tu vois, et de ce métier, c'est en ayant plein de... pas mettre tous les deux dans le même panier, quoi. Réussir à faire plein de trucs.
Clairement. Clairement. Est-ce que on arrive bientôt à la fin de cette émission? Est-ce que tu as une citation, une devise ou une punchline qui t'accompagne? J'aime bien clôturer les épisodes par ce genre de signature.
Bah écoute, moi il y a une phrase en tout cas qui m'a beaucoup marquée, qui a été prononcée par Xavier Dolan, donc le réalisateur, au festival de Cannes en 2014, quand il a eu le prix du jury pour le film Mommy, qui est un film magnifique d'ailleurs, et il a dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Donc je pense que ça résume un peu tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que ouais, j'ai toujours cru en mes rêves de devenir journaliste, même quand on me disait que c'était impossible, que c'était très dur, que c'était un métier machin. J'ai travaillé quand même pas mal pour en arriver là. Et voilà, je pense qu'il faut jamais abandonner et savoir se renouveler, tu vois, comme je l'ai fait, devenir indépendant, machin. Enfin, je trouve que ça illustre bien tout ce que je te disais et c'est une phrase à laquelle je pense souvent.
Merci beaucoup, Raphaël. On peut te retrouver donc sur ton site internet.
Ouais, Raphaël Orenbuch. Je vais peut-être pas l'appeler parce que c'est très long, mais RaphaëlOrenbuch.com. Tu l'écriras quelque part. Hein,
Très bien. Ce sera noté, promis, avec une photo pour l'épisode, comme d'habitude. Donc, on peut te retrouver sur ton site internet, sur les réseaux sociaux également. LinkedIn, Instagram.
Ouais, les deux. Instagram, okay. Je suis plutôt en privé, mais plutôt LinkedIn.
D'accord. Donc, ce qui nous fait un point commun, puisqu'on peut, vous pouvez retrouver donc ce podcast également donc sur les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Ocha, mais aussi donc via mon compte sur LinkedIn ou Instagram. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu ou si vous venez de découvrir l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt et encore merci Raphaël. Au revoir.
Merci.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr